dessous de l'infox, Sophie Malibeau.
Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les dessous de l'infox. Des vidéos d'alerte supposées contre un risque de pénurie d'essence et autres contenus inauthentiques de nature anxiogène, mais totalement inventés, cela pullule sur TikTok. Grégory Genevrier de la cellule InfoVérif de RFI y revient dans un instant. Les campagnes de désinformation lancées par des acteurs pro-russes sur les réseaux sociaux paraissent toujours plus sophistiquées, mais peu suivies d'effet dans le contexte des dernières élections en France. Avec notre invité, nous questionnons aujourd'hui l'impact de ces opérations. Les dernières échéances électorales en Europe et tout particulièrement en France en témoignent. La désinformation rate parfois la cible. Ce sera la chronique de Nathan Gallo des Observateurs de France 24. Comme si le climat en France et dans le monde n'était pas assez angoissant. Les réseaux sociaux en rajoutent une couche, mais il vaut mieux vérifier avant de partager, car souvent, c'est pur intox. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Une énorme pénurie d'essence serait sur le point de paralyser la France à partir du 15 juillet prochain. C'est ce qu'affirme une série de vidéos publiées sur TikTok ces derniers jours. Pour tromper les internautes, les comptes à l'origine de cette fausse information tentent de se faire passer pour des médias crédibles. Tout est fait pour créer un sentiment de panique, Grégory.
Oui, près de 40% des stations fermées, une hausse de 80% du prix des carburants. Si l'on en croit ces publications TikTok, une pénurie sans précédent va toucher la France. Le ton de ces vidéos est volontairement alarmiste et la recette est plutôt simple. Un visuel accrocheur, des images d'illustration, le tout accompagné d'une voix artificielle et d'une musique dramatique.
Alerte, une importante pénurie de carburant est attendue à partir du dimanche 15 juillet 2024.
Alerte, une importante pénurie de carburant est prévue en France à partir du 15 juillet.
Ces vidéos se comptent actuellement par dizaines sur les réseaux sociaux. L'une de ces voix artificielles ressemble même étrangement à celle d'une célèbre présentatrice française.
Alors, y a-t-il seulement le moindre risque de pénurie de carburant en France?
Eh bien, pour le savoir, nous avons posé la question à Geoffrey Caillon. Il est coordinateur de la CFDT chez Total Énergie.
C'est complètement faux. On est très serein sur la question de l'approvisionnement de carburant en France. La logistique carburant, elle est calibrée et elle est constituée par un système qui permet d'approvisionner les stations-service de manière continue. Donc moi, je rassure tout le monde, il ne faut surtout pas céder à une panique sur des fake news de ce type-là.
Les experts du secteur que nous avons contactés sont du même avis, d'autant plus qu'il n'y a pour le moment pas de tension en Europe sur le marché pétrolier.
Qu'en est-il de la hausse des prix de 80% évoquée dans ces vidéos?
Là encore, c'est totalement faux. Si l'Institut français du pétrole prévoit une légère hausse du baril de Brent dans les prochaines semaines, une augmentation de 80% des prix du jour au lendemain n'est pas imaginable en France. C'est ce que nous explique Geoffrey Caillon.
Le prix d'un litre de carburant, il est lié à un marché du pétrole, il est lié à des taxes, notamment en France, où on sait qu'un litre de carburant représente quand même 60% de taxes. L'État n'a pas annoncé, à ma connaissance, une hausse des taxes sur les carburants, donc je ne vois pas comment on peut annoncer des prix exorbitants de litres de carburant comme ça dans des vidéos.
Une infox montée de toutes pièces dans le but de pousser les automobilistes à aller faire leur plein et de provoquer, en cas de demande massive, de vraies situations de tension.
Et qui est à l'origine de cette campagne de manipulation?
On retrouve tout un écosystème de comptes TikTok très récents, se faisant passer pour des médias de confiance. Je vous cite quelques noms, Actu-France 24, Info-Actu TV7 ou Abstract Media. Certains cumulent des millions de likes et leur production se résume à de courtes vidéos sensationnalistes, souvent des infox. On les reconnaît par l'utilisation systématique d'une voix générée par l'intelligence artificielle. Et puis, signe que leurs mensonges circulent, l'un de nos auditeurs nous a récemment signalé l'une de ces vidéos sur notre groupe WhatsApp.
Oui, et puis, petit détail qui ne trompe pas, la date du 15 juillet, du dimanche 15 juillet, alors qu'on sera le 14 juillet, dimanche. Merci Grégory Genevrier. Pour retrouver cette chronique et les précédentes, tapez Info Vérif RFI dans un moteur de recherche sur Internet, tout y est. Alors, ce type de vidéo interroge. Dans les commentaires, on peut voir que des internautes y accordent un certain crédit. Pour autant, sur la masse de contenu circulant sur les réseaux, difficile de mesurer l'impact réel de ces infox. C'est la question que nous abordons avec notre invité Damien Licia.
On en parle.
Bonjour Damien Licia.
Bonjour.
Vous êtes chercheur spécialiste du web et des réseaux sociaux, président de l'Observatoire stratégique de l'information. Vous travaillez notamment à identifier les techniques d'influence et de manipulation de l'information, comme par exemple la diffusion artificielle de contenu. Alors, on vient de vivre une période riche en rebondissements sur l'échiquier politique français, on y est toujours d'ailleurs, depuis la dissolution de l'Assemblée à l'issue du scrutin européen, puis convocation d'élections législatives anticipées qui a conduit à ce que les Français doivent se rendre aux urnes ces deux derniers dimanches. Tout cela a généré beaucoup de trafic sur les réseaux sociaux, Info et Infox. Dans quelle mesure, selon vous, peut-on lier le chaos politique actuel à ce qui se passe sur les réseaux sociaux ?
Écoutez, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs tendent à lier effectivement les menées informationnelles qui émanent d'officines et ou d'entités qui sont de près ou de loin associés à des pays qui nous sont aujourd'hui relativement hostiles à l'image de la Russie. Pourtant, ce lien, il est loin d'être évident. Indéniablement, des acteurs et des officines qui sont proches de la Russie ont essayé de mener des actions dans le domaine informationnel pour déstabiliser ces scrutins de manière beaucoup plus sophistiquée aujourd'hui, puisque comme vous le savez, depuis mars 2022 et l'agression militaire de la Russie en Ukraine, les principaux canaux de diffusion de la propagande russe en Europe et en France, qui étaient Russia Today et Sputnik, sont devenus difficilement accessibles. Donc on est face à des acteurs qui ont essayé, qui ont créé des faux sites, qui ont créé des faux comptes sur les réseaux sociaux. Ont-ils réussi à avoir un impact? Je fais partie des chercheurs qui tendent très fortement à nuancer la causalité qui, pour certains, semble évidente entre ces menées informationnelles et l'état de crise, puisqu'on peut le qualifier ainsi, que traverse notre pays depuis quelques jours et peut-être quelques mois.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la sophistication, malgré tout, de ces attaques informationnelles ?
Oui, c'est vraiment le point qu'il faut souligner. C'est-à-dire que d'un côté, on peut nuancer l'impact de ces menées informationnelles, mais pour autant, il faut les décrire, il faut les décrypter, il faut les désosser, ce qui est nécessaire pour comprendre la manière dont les attaquants procèdent. Concrètement, aujourd'hui, comme je l'ai évoqué, ils ne peuvent plus utiliser aussi facilement que par le passé leurs deux vecteurs traditionnels de propagande, pour le dire assez vite et simplement. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont créer des sites qui parodient, qui reproduisent des médias qu'on connaît. Ça peut être RFI, ça peut être Le Parisien, ça a été Le Point. Et derrière, il y a toute une stratégie sophistiquée qui vise à faire circuler ces liens sur les réseaux sociaux, tout particulièrement sur Facebook et sur X, donc l'ex-Twitter, pour essayer d'attirer du trafic. C'est des stratégies qui sont très complexes puisque ça implique des efforts en termes de logistique, il faut des cartes bancaires, il faut que les acteurs soient difficilement traçables, donc ils aient des VPN, des proxys, donc des choses qui sont relativement techniques, ce qui donne à penser qu'on est quand même face à des gens qui ont clairement envie de s'ingérer dans notre processus démocratique et dans notre vie de tous les jours sur l'espace public en ligne.
Et ça, vous en avez la preuve tangible?
Oui, on l'observe et c'est observé à l'échelle du continent européen. Je pense notamment aux travaux en la matière qui sont très nourris d'un collectif de Russes qui s'appelle Antibot for Navalny. Eux, ils se sont ces derniers mois spécialisés dans la mise au jour de ces tentatives de déstabilisation avec, comme je l'ai évoqué, la création de faux sites. Donc, ils décryptent cela, ils le documentent, et surtout, et c'est ce qui est toujours très compliqué, ils font partie des acteurs qui essayent de remonter un petit peu cette chaîne de commandement pour attribuer ces opérations, puisque, bon, on le sait, sur la partie cyber, à la fin des fins, se pose la question de « Ok, on a mis au jour un site qui semble suspect, de quelle manière est-il ou non lié à un État, en l'espèce la Russie? Antibot for Navalny et d'autres acteurs et d'autres ONG sur le continent européen font partie des gens qui essayent de travailler comme nous on peut le faire pour attribuer ou en tout cas de donner un faisceau d'éléments donnant à penser que c'est effectivement en l'espèce la Russie qui est derrière ce type d'opération.
Alors en général, ce sont, on l'a vu dans cette émission même, il y a des infox qui jouent sur le registre émotionnel, qui font peur, qui alimentent les doutes et les craintes. Est-ce que tout ça ne débouche pas pas forcément sur un ressenti négatif.
L'impact, si vous voulez, il faut le restituer dans le contexte global que sont les réseaux sociaux aujourd'hui et le web en général, avec des centaines de milliers de contenus, des centaines de milliers de sites internet qui structurent cet espace. Et c'est au sein de cette galaxie qui est considérable qu'on a des acteurs étrangers qui essayent, avec les techniques sophistiquées que je vous décrivais, d'avoir une influence. Le problème, le principal écueil qu'ils ont, quand on compare avec ce qu'était par le passé Russia Today et Sputnik, c'est qu'ils n'ont pas ces audiences organiques, ils n'ont pas ces communautés agrégées au long cours qui permettent de relayer un contenu à plusieurs centaines, voire millions, comme c'était le cas par le passé, d'utilisateurs. Donc ils sont obligés d'avoir des fermes de comptes, ce qu'on appelle des fermes de bots, notamment sur X, donc l'ex-Twitter, pour diffuser en masse et de manière parfaitement inauthentique et artificielle ces contenus. Mais le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux, que ce soit en communication ou en marketing, c'est d'avoir ces communautés organiques et agrégées. Et c'est aujourd'hui la principale limite à l'influence des stratégies de disruption faites par la Russie, c'est qu'ils n'ont plus ces communautés-là. Donc, ils font ces stratégies très obliques, ils empruntent ces couloirs qui sont très obscurs, très complexes, hein, ce qui en dit long sur leur volonté d'essayer. Mais à la fin des fins, entre les informations qui sont assez anxiogènes, qui arrivent naturellement et organiquement en France avec la crise qu'on traverse et ce que les Russes essayent de faire, leur impact, j'ai souvent tendance à le dire, il est semblable à ce que l'homéopathie fait au niveau de la médecine, si vous voulez.
Et pourtant, ils y consacrent de lourds investissements. C'est ce qu'on a pu voir grâce à des fuites de données. On a appelé ça les Kremlin Leaks. On a pu voir qu'ils avaient tout un budget, et un budget vraiment conséquent pour mettre en place ce système de désinformation.
C'est l'un des points très importants et sur lequel j'insiste tout particulièrement. Au cours des dernières années, on a un discours un petit peu facile qui tend à dire « les réseaux sociaux n'ont rien fait » pour lutter contre la désinformation en ligne et avec elle, notamment, la propagande de la Russie. Ça a été longtemps le cas, mais si vous prenez aujourd'hui au niveau européen, avec l'adoption l'année dernière du Digital Services Act, donc le DSA, on a de plus en plus de moyens de coercition sur ces réseaux sociaux, ce qui les oblige à faire leur travail. Concrètement, aujourd'hui, pour l'expliquer à vos auditeurs, créer un compte et en créer plusieurs sur un réseau social comme X, c'est quelque chose de relativement compliqué. Il y a toute une chaîne, tout un processus qui est nécessaire. Il faut un numéro de téléphone, il faut un mail auprès d'un service qui est identifié comme crédible et légitime par Twitter. Et ça, c'est très complexe de manière, enfin, quand on veut le mettre bout à bout, à l'obtenir. Donc les Russes travaillent de manière assez intense pour contourner ces différentes barrières technico-techniques qui sont mises. Et vous avez récemment le département de la justice américain, cette semaine, ils ont publié un travail qui est assez fascinant, où ils ont réussi à faire tomber un cluster de près de 1000 faux comptes qui étaient actifs sur Twitter depuis près de 2 ans. Et de manière coordonnée, en obtenant auprès de Twitter des informations sur ces comptes et notamment sur les adresses e-mail, ils ont réussi à remonter jusqu'à l'attaquant et en l'espèce à faire un lien entre cette ferme de faux comptes et la Russie. Ce qui en dit long sur cette sophistication et l'élévation du coût à l'entrée de la propagande. Mais à contrario, plus c'est compliqué, plus les dispositifs mis en place par les attaquants sont fragiles, plus ils sont... Eh bien, ils tombent et ils sont documentés par des ONG et ou ici en l'espèce par des autorités publiques. Et forcément, c'est un travail de plusieurs mois ici en l'espèce, il me semble, c'était sur 2 ans, qui tombe et qui est réduit à néant. Il faut recommencer. Il y a un côté un peu mythe de Sisyphe derrière cette stratégie de propagande de la Russie à l'égard des démocraties occidentales, si vous voulez.
Mais on a l'impression tout de même, enfin, de nombreux chercheurs se plaignent de l'opacité des grandes plateformes, les TikTok, X, Facebook. Ne répondent pas forcément aux attentes des chercheurs.
C'est le grand paradoxe. Moi, je fais partie des chercheurs qui militent pour la transparence dès lors qu'on traite et qu'on parle des réseaux sociaux, qui me semble être le seul garant pour avoir un débat libre, raisonnable et éclairé sur ce sujet. Le problème auquel on est confronté ces dernières années, c'est que vous avez des réseaux sociaux, je pense à Meta, donc la maison mère de Facebook, ou X, qui depuis 2016 et X depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête de l'entreprise, ont coupé l'accès aux données. Il y a encore des politiques qui sont mises en place, des programmes qui sont mis en place par ces services pour permettre à des chercheurs, ça a notamment été le cas de Facebook avec un service qui s'appelait Crotingle, qui était très utilisé par les journalistes,
tout
qui permettait encore d'avoir accès à ces données. Le
ça nous permettait de voir la circulation des infox, notamment, de voir par où elles passaient, de voir qui les relayait.
Ça permettait également aux chercheurs, parce que moi je faisais partie des gens qui avaient accès à Crotingle, de pouvoir monitorer Facebook avec une barre de recherche relativement simple, comme on peut le faire sur Google. Ce service, Meta a annoncé qu'ils allaient progressivement le clôturer. Là, il est en train de mourir de sa belle mort. Et X, concrètement, l'accès à l'API, donc qui est le protocole, on va dire, qui permet de récolter des données, a été arbitrairement, unilatéralement coupé par Elon Musk l'année dernière pour les chercheurs qui, jusque-là, pouvaient extraire près de 10 millions de tweets par mois. Donc, ça rend ce travail beaucoup plus compliqué. Mais d'un autre côté, et quant à des initiatives qui vont dans le bon sens, il faut les souligner, vous avez avec le DSA, donc au niveau du continent, enfin du marché européen, de l'Union européenne, une volonté qui est claire, qui est dans le texte, de contraindre et de forcer ces plateformes, TikTok, X, Meta, à donner accès à cette API, donc à ce canal de distribution, on va dire, pour permettre aux chercheurs d'investiguer, de mener ces recherches.
Et pourquoi ils s'y refusent, à votre avis ?
Concrètement, les données ont été progressivement coupées aux chercheurs à partir de l'année 2016, et ça correspond peu ou prou à ce qui a été à l'époque le scandale Cambridge Analytica, où on a vu des chercheurs qui ont utilisé de manière détournée les données Facebook pour derrière faire du marketing électoral, et avec tout ce débat qui a vu le jour aux États-Unis sur de quelle manière les réseaux sociaux ont pu être utilisés pour favoriser l'élection de Donald Trump. C'était un grand scandale, et dans ce mouvement global, Meta a concrètement coupé l'accès à cette API de manière unilatérale. Du jour au lendemain, on ne pouvait plus les extraire.
Résultat, ce qu'on a vu lors des élections en France, c'est qu'il y a eu des publicités Facebook qui ont été détournées à des fins politiques.
Alors, ça fait partie des autres points, donc, qui sont l'utilisation des publicités. Pas dans très longtemps, effectivement, la régulation des espaces, enfin des publicités pourront être faites sur les espaces publicitaires, que ce soit de Meta ou de Twitter. C'était concrètement assez peu modéré. On a quand même aujourd'hui différents protocoles qui sont mis en place, qui allient intelligence artificielle indéniablement et des modérateurs, mais ils sont assez peu nombreux, il ne faut jamais l'oublier, qui sont censés constituer des garde-fous permettant à ce que des acteurs vraisemblablement malveillants comme ceux qu'on a évoqués, à savoir la Russie ou d'autres pays, je pense notamment à l'Iran qui a très longtemps eu une stratégie de menée informationnelle assez active, notamment sur Twitter, ne puissent pas utiliser cet outil qui, de manière, de manière magique, permet en quelques clics et surtout en dépensant quelques centaines ou milliers d'euros d'avoir accès à des audiences dans des pays ciblés, des audiences assez importantes. Il y a des travaux assez forts qui ont été faits, qui ont bridé ces outils, même quand vous voulez aujourd'hui les utiliser de manière légitime pour faire de la promotion, pour faire du marketing, c'est devenu compliqué. Après, effectivement, il peut y avoir quelques acteurs qui réussissent à contourner ces restrictions, mais ça relève de choses qui sont limitées et qui sont assez vite généralement fixées par les plateformes, puisqu'elles n'ont aucun intérêt à laisser passer ces messages, notamment, je l'ai évoqué avec le DSA, puisqu'il y a des menaces, des risques de sanctions financières assez importantes. Il me semble que c'est 6% du chiffre d'affaires mondial qui peut leur être appliqué en cas de mauvaise volonté de leur part, ce qui est assez important.
Je voudrais revenir sur la question de l'impact, parce que si l'on suppose que les publicités ont de l'impact, pourquoi les fausses informations n'en auraient pas ?
Les publicités ont de l'impact. On arrive dans le domaine du marketing. Il faut qu'il y ait une répétition. Ce n'est pas pour rien que vous prenez à la télévision les publicités qui sont faites aujourd'hui essentiellement d'ailleurs de marques de voitures, puisque ça leur permet d'avoir le retour sur investissement le plus adéquat entre le montant en question et les sommes qui sont investies dans ces campagnes de marketing. Il faut qu'il y ait ce matraquage, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle dans le jargon de la publicité, ce retargeting, avec l'idée notamment sur Internet qu'un utilisateur qui va s'intéresser à un produit en particulier dans sa consommation derrière d'Internet et des réseaux sociaux voit réapparaître cette information. Ce sont des dispositifs qui sont sophistiqués, qui coûtent cher pour les entreprises et pour les annonceurs, la propagande russe telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'on a pu la décrire avec ces écosystèmes de faux sites qui sont poussés par des faux comptes, qui sont suivis, comme ils sont éphémères ces comptes, ils sont jetables, ils sont suivis par 10, 20, 30 abonnés. On ne peut pas du tout comparer ça à un spot pour un SUV qui passerait à la télé de manière répétée. Et là encore, l'acte d'achat n'est pas forcément immédiat. On est bien loin de cette idée.
Par ailleurs, est-ce que vous trouvez que la résilience du citoyen, de l'internaute, cela se construit? Est-ce qu'il y a moyen de se vacciner contre les infox?
Écoutez, la résilience, c'est indéniablement le point le plus important et j'ai l'impression, malheureusement, celui sur lequel, en tout cas en France, pour ce qui nous concerne, l'emphase n'est pas assez mise. Concrètement, au niveau étatique aujourd'hui, on a assisté au cours des dernières années à la construction d'un problème public, qui est le problème public des fake news et leurs différents avatars, que sont les fausses nouvelles, la désinformation, les intox et que sais-je. Pour lutter contre cette nouvelle menace, identifiée comme telle par les autorités publiques et au premier chef par Emmanuel Macron, on a créé des lois, la loi fake news de 2018 qui a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel, et derrière la loi cyberhaine qui est un petit peu du même acabit, même si forcément elle cible plus spécifiquement les discours de haine, elle-même également très fortement retoquée par le Conseil constitutionnel à chaque fois avec l'idée que ces lois posent un problème notamment concernant les libertés fondamentales et au premier rang desquelles figure la liberté d'expression. L'autre réponse qui a été faite par l'État, toujours de manière verticale et hiératique, a été, en 2021 si je ne me trompe pas, la création de Viginum, qui est un service rattaché au SGDSN, qui lui-même est rattaché au Premier ministre. Donc on est vraiment ici sur une réponse politique. Viginum n'est pas une autorité indépendante comme peut l'être la CNIL ou l'ARCOM. Donc on a cette réponse qui vient d'en haut, qui vise à lutter contre ces fausses informations, contre la désinformation, et généralement l'espèce qui vient de Russie. Le problème, c'est qu'on est sur des organismes, comme je l'ai décrit, qui sont de facto éminemment politiques. La résilience, à contrario, elle doit passer par des ONG, par des chercheurs indépendants qui s'agrègent, qui documentent les faits qu'on est en train d'évoquer, qui permettent d'avoir une bonne compréhension, d'éclairer autant que faire se peut le public.
Mais les deux coexistent.
Les deux coexistent, mais en tout cas, la partie société civile, elle n'est pas assez en France impliquée, elle n'est pas assez reconnue, il faut le dire très simplement, pour la contribution qu'elle peut apporter à ce débat. Je pense que dans la logique aujourd'hui qui est celle qui prévaut en France de crise généralisée de confiance qui est documentée baromètre après baromètre, ce n'est pas à l'État de se positionner assez maladroitement sur ce type de sujet et de penser qu'il aura l'assentiment des citoyens là-dessus. A contrario, si arrive à terme à émerger, que ce soit en France, mais au niveau européen, parce que je pense que la coopération européenne est fondamentale sur ce sujet, si on arrive à agréger au sein de la société civile des chercheurs de bonne volonté, on va dire, qui documentent, qui produisent ces informations qui derrière sont relayées auprès de grands médias internationaux, Le travail sera bien fait et sera davantage à même d'atteindre son objectif, qui est celui de détailler, de décrypter ce qu'il fait, mais sans jamais politiser quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment le point le plus problématique qu'il peut y avoir sur ce sujet.
Merci beaucoup, Damien Licia. Je rappelle que vous êtes donc chercheur spécialiste du web et des réseaux sociaux et président de l'Observatoire stratégique de l'information. Et précisons que la Commission européenne de Bruxelles vient d'accuser X de ne pas remplir ses obligations de transparence et d'accès aux données pour les chercheurs. Un avis qui ouvre la voie à de lourdes amendes pour la plateforme d'Elon Musk à moins d'un nouveau revirement. Le gendarme numérique de l'Union européenne poursuit aussi ses investigations concernant les manipulations d'informations publiées sur X. Nous allons maintenant nous pencher concrètement sur différents cas d'opérations de désinformation pro-russe observés sur différentes plateformes lors de la campagne des législatives. Nathan Gallo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Observateurs de France 24 et vous avez mené une veille active des infox sur les législatives.
Exactement. Et ce qu'on a observé, c'est certes une intensification de ces opérations d'influence pro-russe les semaines avant le scrutin, Mais ce qu'on note aussi, c'est qu'aucune d'entre elles n'a bénéficié d'une réelle visibilité au-delà des sphères pro-russes qui sont habituées à partager de la désinformation.
Et alors, de quel type d'infox parle-t-on ici ?
Alors ici, ce sont des faux contenus qui imitent généralement l'identité de médias ou d'organisations françaises. Alors il y a un exemple marquant. Avant le premier tour, un faux site web a imité celui de la coalition présidentielle Ensemble. Alors ce site, il copie en tout point les codes visuels du vrai site. Problème, c'est en réalité un faux site et son URL, écoutez bien, ensemble-24 est en fait légèrement différent du vrai ensemble-2024. Et alors, que lit-on sur ce site ? Votez pour nos candidats et recevez la prime de Macron d'un montant de 100 euros. Alors, bien sûr, cette prime n'existe pas et cette mention est absente du véritable site.
Alors, cette fausse information, nous l'avions repérée dans les dessous de l'infox, mais a-t-elle vraiment été très vue et surtout partagée sur les réseaux sociaux ?
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont la campagne à l'origine du faux site a cherché à crédibiliser cet intox auprès du public, à l'aide notamment d'un faux site d'actualité. Alors, ce site, il s'appelle France en colère et il a publié un article le 26 juin qui titrait, je cite, « Macron promet aux Français 100 euros en cas de vote pour la majorité présidentielle ». Alors ce faux site, au design rudimentaire, il a été créé par le réseau d'influence pro-russe, Copycop, comme l'a documenté l'entreprise Recorded Future.
Et au bout du compte, quelle a été la portée de cet infox ?
Alors malgré ses efforts pour crédibiliser cette fausse information, son écho est resté relativement restreint aux sphères pro-russes sur Telegram et à quelques comptes sur X. Toutefois, cette tentative n'est pas isolée et nous, on a vu quelques dizaines de faux contenus relayés pendant les législatives. Mais aucun ne semble avoir été viral.
Autre exemple, le week-end dernier, entre les deux tours des élections, plusieurs tweets ont interpellé des médias et des comptes de fact-checking sur X pour vérifier des vidéos prétendument diffusées par des médias français.
Oui, un faux reportage attribué notamment aux médias Le Figaro prétendait qu'un couple d'homosexuels avait tenté d'incendier Notre-Dame de Paris pour protester contre la victoire de Marine Le Pen au premier tour. Mais cette vidéo s'inscrit ici dans l'opération Matryoshka, dont le but est d'interpeller les médias de fact-checking pour les pousser à vérifier ces intox et donc de leur donner de la visibilité. Mais là encore, la viralité de ce contenu s'est avérée quasi nulle. On assiste donc certes à une complexification de ces opérations de désinformation, mais leur impact concret sur les élections est toutefois heureusement resté très faible.
Merci Nathan Gallo des Observateurs de France 24. Ce sujet et donc toutes vos vérifications sont à retrouver sur le site des Observateurs de France 24. Les dessous de l'infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs ainsi qu'à Claude Battista à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. Les JO de Paris approchent. On va y consacrer la prochaine émission, les JO, jeux d'influence et mythologie. En attendant, place à l'info sur RFI.
RFI Soir.
Marion Kazanov.
19h58 à Paris, dans un peu plus de 30 minutes, un point sur l'actualité africaine. Afrique Soir, bonsoir Nemo Ampis.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
Et à la une.
Les suites de cette évasion massive au Niger, précisément de la prison de Koutoukale, située à une quarantaine de kilomètres de Niamey, la capitale. L'établissement abrite des détenus dits dangereux, notamment des combattants islamistes ayant des liens avec Al-Qaïda et le groupe État islamique. La traque s'est poursuivie toute la journée. Nouveau rebondissement également au Kenya, après les manifestations qui ont secoué le pays ces dernières semaines. Hier, la quasi-totalité du gouvernement a été limogée par le président William Ruto. Aujourd'hui, c'est le chef de la police qui a démissionné. La toile s'est, elle, enflammée. Et puis, notre dossier du soir, après l'annonce hier de la candidature à un second mandat consécutif du président algérien sortant, Abdelmadjid Tebboune. Détails et analyses à suivre à moins de 2 mois maintenant d'un scrutin anticipé. L'élection est prévu le 7 septembre prochain.
Afrique Soir, 18h30, temps universel avec Nemo Ampis. Dans quelques secondes sur RFI, un nouveau journal d'actualité internationale. Il est bientôt 20h à Paris.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.